On dit quand même un mot des trois premiers livres, parce que vous passez tout de suite à rime. Et je crois que pour parler de ces trois premiers livres de poésie que vous avez publiés, il faut reconstituer un peu le climat culturel de la fin des années 50 et du début des années 60, c'est-à-dire qu'il faut parler de tel quel.
Il faut parler tel quel. Je n'arrive pas à tel quel au commencement de tel quel. C'est-à-dire, en fait, j'arrive avant le commencement de tel quel, puisque j'ai découvert, vous savez, je suis secrétaire de rédaction de cette revue, donc je dispose des archives, ce qui me permet de fouiller dans les archives, et j'ai découvert que un de mes poèmes avait été prévu au numéro 0 de tel quel. Mais en vérité, je ne publie pour la première fois dans tel quel qu'au numéro 8, c'est-à-dire en 1962. Et je deviens, à partir du numéro 12, secrétaire de rédaction et membre du comité de la revue. Eh bien, vous savez, le climat littéraire français au moment où tel quel se fonde, c'est un climat assez étroit, c'est un climat dominé très nettement par un mouvement romanesque qui vient de se mettre en place, qui s'appelle le Nouveau Roman, qui est tout à fait...
Ne renversez pas le micro complètement.
C'est le nouveau roman. Je retournais vers le nouveau roman. Qui est très français, qui est très dans sa rationalisation délibérée de la fiction et même du langage. La poésie n'a que peu de place. Lorsque j'entre au comité de tel quel, il n'y a pas de poète au comité de tel quel. Je suis le premier poète qui entre au comité de tel quel. J'y entre d'ailleurs en même temps que Denis Roche.
Et la liste s'arrête là, non? La liste des poètes.
Non, pas du tout. Michel Deguille a fait un bref passage au comité tel quel. Et
s'en
ensuite,
souvient plus.
nous en avons publié pas mal d'autres. Mais qu'il soit resté longuement au comité tel quel, c'est en fait c'est Denis Roche et moi-même. Le climat est assez triste. C'est le climat français d'après-guerre, n'est-ce pas? C'est le climat français d'après-guerre qui est un climat assez, littérairement assez triste, assez éteint, où les œuvres étrangères n'ont pas vraiment pénétré en France, ou si vous voulez, mais pas seulement les œuvres étrangères, c'est le moment où les premiers volumes d'Artaud ne sont pas publiés. C'est le moment où on ne trouve pratiquement pas les livres pour lire les livres qu'aujourd'hui tout le monde a à sa disposition, que ce soit les livres de Breton, que ce soit les livres d'Artaud, les livres des surréalistes, que ce soit les œuvres de Hölderlin, on ne les trouve pratiquement pas, et telle qu'elle va publier, est une des premières revues à publier ces textes. Donc si vous voulez, ce qui se passe dans ce climat d'entrée à telle qu'elle, d'une certaine façon, eh bien c'est une accentuation, je dirais, systématique, non pas de la modernité en tant que modernité, mais de certains éléments de la modernité.
Mais tel quel, alors, a un rôle assez considérable. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, son influence est moins sensible. C'est une impression, simplement? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que l'influence est beaucoup plus sensible qu'elle n'était. Vous savez, lorsque je suis entré à tel quel, la revue se vendait à 800 exemplaires. Aujourd'hui, nous tirons entre 5000 et 6000 exemplaires. C'est proportionnellement, ça laisse supposer une certaine influence. Je pense que tel quel a effectivement un rôle considérable et que si vous voulez, si aujourd'hui, par exemple, la lecture d'une revue comme la NRF peut nous sembler extrêmement difficile, vieillotte et un peu caduque, eh bien c'est quand même grâce à tel quel que cela s'est produit, c'est-à-dire...
Oui, je crois que vous vouliez dire quelque chose.
Non, je ponctuais simplement,
disant
que chaque fois que je prenais en main la NRF, je constatais de même que c'était vieillot et caduc. Oui.
C'est-à-dire qu'il y a, un travail, si vous voulez, il y a un travail que tel qu'elle a fait et que aucune autre revue n'a fait, même si c'est Gallimard, n'est-ce pas, qui est éditeur des livres de bataille et des livres d'Artaud. Eh bien, on s'aperçoit que, si vous voulez, Gallimard a publié ses livres et les a mis d'une certaine façon dans la bibliothèque, mais que les revues que fait Gallimard, et je ne pense pas seulement à la NRF, je pense à d'autres revues, jeunes revues que Gallimard a pu faire, eh bien, ces revues n'ont pas porté ces textes dynamiques, ces textes vivants de de notre XXe siècle, pour ne pas parler des textes du XIXe ou même du XVIIIe, n'est-ce pas? C'est une revue, la NRF est une revue qui est restée, je dirais, dans le halo XIXiste de la première moitié de notre XXe siècle et qui n'a pas passé la guerre, bizarrement, d'une certaine façon, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous pouvez toujours voir au sommaire de la NRF, je ne sais pas, un inédit Giono ou quelque chose comme ça, qui sont des auteurs, je ne veux pas dire que ce ne sont pas des auteurs intéressants, n'est-ce pas, mais je veux dire que ce sont des auteurs qui ne sont pas liés sur l'actualité vivante de la langue, n'est-ce pas, qui sont liés à un effet historique de la langue. Alors qu'en tant qu'auteur historique, ils soient importants, c'est incontestable. Malraux est un auteur historiquement extrêmement important, Claudel est un auteur historiquement extrêmement important, peut-être d'ailleurs plus important que Malraux et que Giono certainement, mais si vous voulez, ce sont des auteurs fixés à un moment historique de l'histoire de la langue, et on s'aperçoit que, eh bien, pour avoir généralement rendu compte de ce qu'il y avait de vivant et de contemporain dans la langue, il n'y a qu'une revue qui se soit imposée en tant que telle, et c'est effectivement telle qu'elle.
Oui, mais la question que je vous posais, c'était, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il n'y a pas une usure quelque part, je ne sais pas, du côté de telle qu'elle ou du côté des lecteurs?
Le tirage de la revue ne le laisse pas supposer. Du côté de telle qu'elle, vous savez, Solers a, je crois, 44 ans, j'en ai 47, on a encore chacun une bonne quarantaine d'années à vivre, on en parlera dans 40 ans.
Il serait intéressant de comprendre pourquoi Alain Weinstein pense que telle qu'elle en ce moment a moins d'audience. À partir de quoi pense-t-il cela?
Il me semble que la rumeur est beaucoup plus discrète aujourd'hui. On en parlait beaucoup autrefois, aujourd'hui on ne sait plus ce qu'il y a dans les sommaires de telle qu'elle. Autrefois, chaque fois qu'un numéro paraissait, tout le monde était au courant de ce qui s'y trouvait.
Oui, mais je crois que le travail qui se fait aujourd'hui est quand même vient de là, non? Enfin, je crois qu'il y a un déblayage qui a été fait et qui aujourd'hui donne ses fruits. Alors évidemment,
Anne-Marie Oudbine.
Oui, il me semble qu'on peut voir aussi une influence en creux, c'est-à-dire pas simplement parce qu'on parle pour, mais parce qu'on parle contre, parce qu'un certain nombre de discours manifestement...
Vous croyez justement qu'on parle tellement contre?
Non, mais pas forcément dans le dit évident, mais un certain nombre de discours...
C'est reconnu comme une institution aujourd'hui.
Écoutez, moi j'ai des jeunes étudiants, par exemple. Bon, mes jeunes étudiants, on en a vu, on a vu un étudiant récemment... apostrophe. Bon, donc un de ces étudiants...
Ne citez pas la concurrence.
Ah, voilà, tout de suite. Donc un de ces jeunes étudiants de lettres, tous ceux qui n'ont rien à se mettre sous la dent et qui cherchent à se mettre quelque chose sous la dent, y compris dans les lointaines provinces, c'est quand même à tel quel qu'ils réfèrent. C'est-à-dire essentiellement à Solers et Plénet. Alors, ça veut dire quelque chose quand même. Je crois que ce que Marcella a dit, c'est bien effectivement quelque chose peut-être non seulement d'une langue nouvelle, mais de voix nouvelle, d'une écriture nouvelle qui passerait là.
Oui, ça veut dire exactement ce que je voulais vous faire dire. Il faudrait quand même dire un mot de ces trois premiers livres qu'on a laissé tomber rapidement, Marcella Plénet. Aujourd'hui, vous-même, qu'est-ce que vous pouvez en retenir de ces trois livres?
Je suis très frappé que vous les réunissiez, parce qu'effectivement, je les réunis, n'est-ce pas? Il me semble qu'ils forment un ensemble. Ils forment un ensemble. C'est difficile d'en parler, et j'ai beaucoup de difficultés à parler de... J'ai beaucoup de difficultés à parler de mon œuvre et à la pensée en tant que telle, n'est-ce pas? Ce que je sais, en tous les cas, c'est que je les perçois comme un ensemble, et je les perçois comme un ensemble, comment dire, presque comme un parcours didactique d'un apprentissage de la langue et d'une sorte d'évacuation de ce que pour moi la langue poétique moderne pouvait porter de modernité et de tic moderniste. Je dirais que de l'un à l'autre de ces livres, j'ai essayé d'évacuer les caractères modernistes de la poésie contemporaine, pour moi bien sûr, et à l'intérieur de ma propre langue. C'est-à-dire, si vous voulez, d'abord le caractère, disons, d'évocation poétique affective, strictement affective, et liée le plus souvent d'ailleurs à des paysages. Un de ces recueils s'appelle Paysages en deux. Des évocations plus immédiatement psychologiques et trop immédiatement psychologiques liées à la biographie et encore une fois au caractère affectif. Et puis aussi une volonté de, comment dire, c'est-à-dire de littéraliser la langue, n'est-ce pas, de la donner pour ce qu'elle est, de produire avec la langue quelque chose qui soit tout à fait abstrait. Si vous voulez, je dirais que du premier au troisième de ces livres, c'est un peu, d'une certaine façon, l'influence de Mallarmé que j'ai essayé d'évacuer.